Bellancère en l'an 1393. Arthur est un gringalet de 10 ans. Fils de forgeron, il doit rentrer en apprentissage auprès de son père en fin de saison. Le jeune garçon a un visage ovale, un corps tout en os, des mains douces aux longs doigts fins et un regard pétillant d'intelligence. Il a beaucoup d'énergie, de curiosité et de volonté. Il aime prier et rendre service aux aînés. Depuis plusieurs mois, le fiot rend visite à un gentilhomme qui vit au monastère. Ses visites sont occasionnelles et de courte durée. C'est son plus grand secret. Son frère de lait, Basile, est fils de la meilleure amie de sa mère qui est malheureusement décédée en couche. Mais Basile, mis à part les seins de sa mère, n'a jamais rien partagé avec lui. Basile a grandi avec son père et les garçons se sont perdus de vue depuis fort, fort longtemps. Constance, l'aînée d'Arthur, doit bientôt se marier. Constance est tout l'inverse d'Arthur. Grande, dégingandée, à la longue, très longue chevelure de feu et à l'ossature robuste. Elle a une voix éraillée et grave depuis sa naissance. Constance ne sait peut-être pas ni lire ni écrire, comme la plupart, si pas la majorité des paysans, mais elle aime faire ses propres expériences et retient absolument tout grâce à une mémoire exceptionnelle. C'est ainsi qu'elle se fait remarquer dans le village avec ses soins étranges préparés uniquement à base de tout ce qu'elle trouve à portée de main. Les avis la concernant sont partagés. Assurément, elle a une réputation à protéger. Disons-le sans respit, Arthur et Constance ne s'apprécient pas. Arthur, fils de forgeron, va devoir succéder à son père. Or, il n'est pas du tout bâti pour maîtriser feu et métal. Depuis que le monastère lui a fait découvrir le plaisir de la lecture et de l'écriture, il rêve de gagner ses éperons et souhaite ardemment travailler, outre les prières, le métier du livre. Mais il n'est pas un noble et sa famille n'a ni titre ni rang lui permettant d'espérer pouvoir travailler le papier et l'écriture. Parcheminier, copiste, correcteur, enlumineur ou relieur, il ne sait pas trop. Arthur a secrètement commencé à travailler la fabrication d'un papier. Très discret, discipliné et respectueux des travaux du monastère, il a reçu de son moine professeur deux feuilles de papier faites à partir de quelques chiffons mis au rebut. Celles-ci ont quelques défauts, raison pour laquelle sans doute le religieux lui en a fait cadeau. Arthur n'a donc point besoin de rapiner pour apprendre et évoluer dans ce métier. Il a donc commencé à relier lui-même ses feuillets donnés. Après avoir gratté les restes du précédent texte, il s'applique à graver quelques mots grâce à un bout de bois taillé minutieusement. Dans l'attente de trouver une solution d'ici la fin de la saison, Arthur fait semblant de s'intéresser aux préparatifs des épousailles de Constance. Normalement, sa famille ne doit pas préparer grand-chose puisque sa sœur, qui n'a rien d'une demoiselle, a réussi à conquérir le cœur d'un vaillant chevalier en soignant son honorable destrier. La pauvre bête avait un bout de bois fiché juste au-dessus du sabot et l'inflammation gagnait du terrain. Le magnifique animal, à la robe d'un noir de jais, était arrivé en boitant dans le bourg qui sépare la forêt du château. Les yeux perçants de sa sœur ont tout de suite trouvé le mal. Après avoir retiré le corps étranger dans la patte, Constance a soigné l'animal avec un étrange onguent à base de plantes. Le damelot a beau être un preux chevalier de la cour, il n'est pas resté insensible aux dons de Constance. Don qui lui vaut, faut-il le rappeler, une mauvaise réputation, mais pour lequel le chevalier y voit là une opportunité. N'écoutant que son devoir, afin de sortir cette femme des flammes de l'enfer, il décide que cette jouvencelle sera la mère de ses enfants et lui demande sa main aussitôt. Un jour, Arthur part à l'enjournée et revient chez lui quand le soleil inonde son foyer. Il dissimule dans ses brais un codex. Ce tas de feuillets, pliés et reliés par les moines, avait été jeté avec les ordures et croupissait dans une flaque de boue à l'allure plus que douteuse. Un mélange sans doute d'eau sale, d'excréments et d'autres détritus. Son trésor n'est pas de bonne facture, mais de cela, Arthur n'en a cure. C'est là un objet précieux sur lequel il n'a pas pu fermer les yeux. Le fait qu'il soit cousu de travers et que le papier ait craquelé à certains endroits le rend unique et apprécié. Le chemin jusqu'au monastère n'a pas été de tout repos. Cela lui a demandé presque une heure de marche, et sa trouvaille a eu bien le temps d'absorber le fumet de son lit de fortune. Oh, ça pouille ici, Arthur! Va donc prestement te rincer les mains et le visage à la fontaine! Tu ne touches point à ma robe sans cela! S'exclame Constance en s'éventant d'une main. Je ne fleure peut-être pas la rose, mais ça veut dire que je travaille dur pour toi, ma sœur. Retiens-le bien, lui répond-il en haussant les épaules et en appuyant encore plus fermement sur le codex qui repose près de ses fesses. Il me plaît de dire ce que je veux, lui rétorque-t-elle en lui tirant la langue. Écoute-toi, ma pauvre fille, tu deviens une gourdasse depuis que tu t'es entichée de ce chevalier. Et toi, un couard, qui n'ose guère dire à père qu'il préfère l'intellect plutôt que le travail manuel. Et Constance de préciser. Tu crois que je ne connais pas tes petites cachotteries? Ton espèce de parchemin tout dégoûtant que tu caches sous ta couche de gamin? Je ne sais pas ce qui me retient de faire des gorges chaudes. Oh, arrête de faire ton Jacques, cela te rend laide, sans blague, lui répond-il d'une voix mal assurée. Ces insultes de bas étage sont monnaie courante entre eux. Arthur, contrairement à ce que sa sœur croit, n'est pas un peureux. C'est juste qu'il est attentif au chagrin qu'il risque de causer à son papa et à sa maman, qu'il chérit tant. Il faut savoir prendre des gants pour annoncer ce genre de nouvelles à ses parents. Après s'être lavé de mauvaise grâce, les mains à la fontaine, le jeune Arthur revient avec le sourire. Malgré les apparences, le jeune garçon est plus espiègle qu'on ne le pense. Qu'il prépare une diablerie contre sa sœur ne nous surprendrait pas. Il n'irait jamais jusqu'à oxyre qui que ce soit, il en serait bien incapable. Mais glisser une livre d'insectes dans le brouet de Constance et lui offrir ce repas avec un visage d'ange, ça lui ressemble plutôt bien. Mais pas ce jour. Il n'a pas envie de vergogner à ses parents, de faire l'enfant à un moment aussi important pour eux. Il n'est pas si effronté qu'il aime le supposer. Sur le trajet vers la fontaine, il a eu tout le temps pour réfléchir à un plan. Il repense alors à ses rencontres avec le ménestrel. Celui-là, il fait de la magie avec les lettres. Il blague de tout, surtout, en poésie et en rire. Ce ménestrel, il le comprend. Quand le temps leur permet à tous les deux, ils s'amusent à faire des joutes verbales entre eux. Arthur est très bon à ce petit jeu. Il pourrait être poète ou ménestrel que cela ne le dérangerait pas. Tant qu'il peut s'amuser avec les mots, il s'en accommodera. Arthur se demande s'il verra son meilleur ami tantôt, quand il ira à la brune. L'enfant n'a pas peur du noir, que du contraire. Il affectionne particulièrement ces instants mystérieux et parfois dangereux, il faut l'avouer. Si au petit matin il se consacre au larcin, la nuit lui préfère les rimes et les vers. Dans leur chaumière, le petit frère passe un marché avec sa sœur détestée. « Je prépare ta déclamation quand nous irons festoyer à ton union. » Une poésie d'amour a attisé la jalousie de toute la cour. Tu n'aurais qu'à la connaître par cœur et en faire ton bonheur. En échange, il me plaît d'avoir ton silence sur mon secret. Ne me déconfie pas, car il revient à moi de me confier à nos aînés. Oh, je ne sais point, cela ne m'intéresse guère ce que tu me proposes. Ah, peut-être préféreras-tu, si j'ai ton acquiescement pour cela, un grimoire où seront gravées tes formules de potions, de soins et de charmement? Je ferai des dessins et des manicules en lieu et place des mots. Je t'apprendrai à compter pour bien doser et je serai ton scribe préféré. Constance ne dit plus mot. Si elle est appréciée pour certains soins donnés, elle est encore traitée de sorceresse par d'autres. Avec ce grimoire de mage, elle pourrait essayer, après son mariage, de devenir l'apothicaire du château. « Ce serait trop beau » pense-t-elle. « Marché conclu, lui dit-elle, en broyant presque la main de son frère. « On travaillera ensemble sur un grimoire de mage. Et je te promets de ne rien dire au pas. » Mais la chaumière n'est pas très grande. Leur mère a tout compris du marché. Avec un grand sourire, elle interrompt sa fille. « Oh, mes enfants, mes chéris, j'ai tout ouï de votre échange. Convaincre votre père va être une autre paire de manches, mais j'ai bon espoir. » Vous pouvez me croire. Tant Arthur que Constance restent bouche bée. Leur maman, si discrète, si silencieuse d'habitude, n'a jamais autant parlé librement. Et ce n'est pas fini. Arthur, tu ne dois rien craindre. Tu sais, j'ai aussi découvert ton parchemin sous ta paillasse hier matin. Je trouve que tu as un don unique pour la graphie. Je ne veux pas le gâcher et t'imposer le métier de la forge. J'irai quérir ton enseignement comme apprenti, en tant que relieur, correcteur ou enlumineur, auprès du monastère. Mais pas avant tes 12 ans. Sache aussi que père a appris que Basile, ton frère de lait, il veut devenir forgeron. Tu sais, lui et toi, vous partagez bien plus de choses que vous ne le croyez. » À ces mots, Arthur en laisse tomber son codex qu'il cachait maladroitement derrière son séant. « Constance, ma fille, ma chérie, que tu as donc grandi. Tu vas bientôt nous quitter pour une vie meilleure. Ton père et moi ne souhaitons que ton bonheur. Si tu veux devenir la première femme apothicaire, reconnue comme telle à Bellancère, nous ne nous y opposerons pas et t'encourageons même dans cette voie. » Constance, qui a pourtant souvent le dernier mot, ne sait plus quoi dire. Ses yeux pétillent de joie à l'idée d'épouser son chevalier, mais aussi son futur métier.